Un journaliste d'expérience qui fait avancer la réflexion. Philippe-Vincent Foisy.
Parle d'un sujet... des fois un peu controversé, c'est toutes ces histoires de drogue. On l'a vu avec la vidéo de Pierre Poilievre, on en parlait hier avec Mario et Benoît. Quelle est la bonne solution pour lutter contre ces addictions, contre ces overdoses, notamment de fentanyl? À Vancouver, par exemple, on a décidé d'offrir ces drogues-là en bonne qualité, je mets des guillemets ici. Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce qu'il y en a d'autres, des solutions pour aider ces gens-là? La docteure Marie-Ève Morin, médecin de famille qui œuvre en santé mentale et en dépendance, est avec nous. Madame Morin, bonjour.
Bonjour, Monsieur Foisy.
J'essaie de voir clair dans tout ça, là, parce que quand on entend les gens de Vancouver, par exemple, dire « oui, mais safe supply », comme ils appellent, c'est au moins, on sait que le fentanyl ou autre, la cocaïne, par exemple, ne sera pas coupé avec quelque chose de nocif. Donc, on est peut-être un peu plus sécuritaire. De l'autre côté, il y en a qui disent « ouais, mais ça, c'est encourager la dépendance, puis ces drogues-là, en bout de ligne, causent beaucoup de tort quand même aux consommateurs. Est-ce qu'il y a une solution entre les deux, mettons, entre on n'en fait pas ou on en fait trop? »
Écoutez, même pour des gens qui travaillent là-dedans à temps plein, c'est une situation extrêmement complexe. Quand on parle de dépendance, en particulier la dépendance aux opioïdes, c'est certain qu'il y a plusieurs approches. Il y a différentes écoles de pensée, mais il y a aussi des différentes approches qui dépendent surtout de où est-ce que le patient est rendu, où est-ce que le consommateur est rendu dans son cheminement. Une des approches qui est prônée et à laquelle je crois, le projet Caméléon, c'est mon organisme communautaire, on est un organisme de réduction des méfaits. Qu'est-ce que c'est la réduction des méfaits? C'est une approche, en fait, ça le dit, là, on essaie de diminuer les risques associés à une consommation qui va exister de toute façon. Hein? Même si on ne voulait pas qu'il y en ait des opiomanes, des toxicomanes, ils sont là. Et c'est pas seulement les gens de la rue. Hein? Il y a beaucoup. La toxicomanie n'a pas de préjugés. C'est nous qui avons des préjugés, mais ça peut toucher n'importe qui. Alors, la réduction des méfaits, ça implique, entre autres, la distribution de seringues stériles. Ça fait longtemps que ça existe. Il y a aussi les sites d'injection supervisés. Il y a la fameuse naloxone, qui est l'antidote pour les overdoses d'opioïdes, qui est une réduction des méfaits aussi.
Donc, ça fonctionne. Ça, c'est des bonnes solutions.
Oui, c'est des excellentes solutions. C'est sûr que l'idéal, ce serait de pouvoir prévenir la consommation, mais là, on n'en est pas là. On a une crise des opioïdes, on doit agir selon ce qu'on voit, si on veut éviter le plus de décès possible. Et il y a finalement le fameux approvisionnement sécuritaire qu'on appelle en anglais le « safe supply », qui est le fait de fournir à un patient consommateur d'opioïdes, par exemple, une substance qui est plus pure. Parce qu'on sait que les opioïdes, le problème avec la crise, c'est justement toute l'apparition du fentanyl qui est beaucoup plus puissant que l'héroïne, qui a tué beaucoup de gens depuis le début de la crise.
Ça fait combien de temps, ça, le fentanyl? C'est quoi, 3-4 ans à peu près qu'on le voit arriver sur le marché?
En fait, le fentanyl, on l'a vu la première fois sur le marché au Québec autour de 2013-2014.
Ah, quand même, OK.
Et on a déclaré qu'on était en crise des opioïdes en 2016 au Canada. Aux États-Unis, ça avait commencé avant. Mais ça fait quand même là quelques années. Là, ça fait 5-6 ans que ça dure. Et ça n'a pas l'air parti pour arrêter tout de suite maintenant. Ça, c'est certain. L'autre approche avec la dépendance aux opioïdes en particulier, c'est qu'il existe des traitements très efficaces. Il y en a deux en particulier, la méthadone, dont tout le monde a déjà entendu parler. Et l'autre produit qui est un peu plus nouveau des 10 dernières années, c'est la buprénorphine, qui s'appelle aussi sur le marché, le nom commercial, on appelle ça de la Suboxone. Donc ça, c'est des traitements qu'on peut offrir aux patients qui sont dépendants aux opioïdes pour qu'ils arrêtent de consommer. Et habituellement, ça fonctionne.
Ah oui?
Donc, moi, j'en prescris dans mon bureau, puis je le vois, là, j'en ai des patients qui sont sur méthadone ou buprénorphine qui ne consomment plus d'opioïdes. Et ça les rend fonctionnels. Quelqu'un qui est sur ces traitements-là, là, à la bonne dose, ça paraît pas. C'est pas des médicaments qui gèlent, c'est vraiment des médicaments qui rendent les gens fonctionnels et qui empêchent le sevrage. Donc maintenant, c'est quoi la distance entre l'approvisionnement sécuritaire et le traitement? Je vous dirais que ça dépend de chaque patient. Mais je pense pas qu'il y ait rien de tout noir ou tout blanc là-dedans, puis il y a personne qui a la vérité absolue, ni même monsieur j'ai de la misère à dire son nom, mais je pense qu'il y a personne qui a la vérité absolue là-dessus. Il y a différentes approches qui s'équivalent et je pense que l'approvisionnement sécuritaire, pour moi en tout cas, c'est une option palliative, temporaire en situation de crise. Mais je ne pense pas qu'on devrait fournir ces substances-là à très long terme aux patients. Je pense qu'à un moment donné, idéalement, on devrait offrir un traitement. Le traitement au lieu de l'approvisionnement sécuritaire.
C'est que dans, c'est que dans leur proposition de donner ces drogues-là, en attendant, il devrait y avoir le en attendant, puis avoir l'option B et C dans les deux médicaments dont vous parliez, les deux autres drogues dont vous parliez, puis dire, ben regarde, là, tu prends du fentanyl, OK, mais bientôt, faut que tu penses à peut-être prendre quelque chose d'autre et tu vas voir, ça se peut et ça fonctionne aussi.
Ben, moi, ce qui me fait peur un peu avec l'approvisionnement sécuritaire, en fait, c'est que c'est des médicaments sous forme de comprimés, mais ça l'empêche pas l'injection. Hein. L'injection de drogue, c'est pas banal s'injecter. Hein. Il y en a pour qui c'est un mode de vie, mais il y a quand même des risques à ça. Il y a des risques d'infection, d'endocardite. En fait, une endocardite, c'est une infection du cœur. C'est vraiment pas banal, c'est potentiellement mortel. L'endocardite peut se compliquer, il peut y avoir des abcès, des chocs septiques. C'est pas banal s'injecter. Et quand on fournit, par exemple, des hydromorphones ou des drogues injectables, ben on n'intervient pas tellement sur ce mode de vie-là, sur ce comportement-là, qui, selon moi, devrait pas être non plus un mode de vie à vie, justement. Puis je veux dire, moi, je connais pas personne qui, à l'âge de 7-8 ans, rêvait d'être un injecteur de toute sa vie. Je pense pas que c'est un mode de vie à long terme, ultimement. Je pense que c'est pas une condamnation. Et moi, je crois à la rémission. Je crois qu'on peut s'en sortir, en fait. C'est ça le message que je vais envoyer.
Je pense que ça fait du bien d'entendre ça aussi, de se dire que c'est pas une fatalité et qu'il y a des solutions aussi. Parce qu'en ce moment, dans ceux et celles qui prennent les décisions, ça ferait du bien d'entendre ça. Docteur Marie-Ève Morin, merci d'avoir été là. Merci pour votre travail aussi, puis de nous éclairer là-dessus.
C'est un plaisir. Merci.
Salut, au revoir.